C'est la dernière partie de la grande table, Caroline Brouet.
Suite de cette grande table spéciale hommage, en effet, mais cette fois à une auteure bien vivante qui a remporté hier la consécration littéraire suprême.
The Nobel Prize in Literature.
Le prix Nobel de littérature 2015 est décerné à l'écrivain bélarusse Svetlana Alexievitch pour son œuvre polyphonique, mémorial de la souffrance et du courage à notre époque.
Elle l'avait d'ailleurs annoncé elle-même sur Twitter, surprenant tout le monde à 11h du matin, et son nom circulait parmi les favoris depuis quelques jours déjà. Svetlana Alexievitch, journaliste, romancière, elle est née en Ukraine, elle a grandi en Biélorussie, où elle vit maintenant à Minsk. On lui doit plusieurs livres qui ont marqué les consciences. La guerre n'a pas un visage de femme, en 1985, sur la Deuxième Guerre mondiale, livre qui fut un best-seller, soutenu par Gorbatchev, même si elle fut dénoncée comme antipatriotique, naturaliste et dégradante. Puis en 1989, elle récidive avec Les cercueils de zinc sur la guerre d'Afghanistan, qui fut adaptée au théâtre par Didier Georges Gabilly en France. Puis en 1993, Ensorcelée par la mort sur les suicides qui ont suivi la chute de l'URSS. Et enfin en 1997, on peut citer La supplication qui revenait sur l'accident de Tchernobyl. En septembre 2013, nous l'avions reçue, Svetlana Alexievitch, pour un livre qu'on peut qualifier de livre événement, un livre que je vous conseille d'ailleurs de lire si vous ne l'avez pas déjà fait, non seulement pour la beauté de sa langue, un livre traduit du russe par Sophie Benesch, mais aussi pour la puissance de son récit. Ce livre s'intitule « La fin de l'homme rouge » ou « Le temps du désenchantement » et il est édité en français par les éditions Actes Sud. C'est cet entretien avec Svetlana Alexievitch que nous vous proposons de réentendre aujourd'hui. Rachid Yamboukine traduisait ses propos. Et pour l'interroger, à mes côtés se trouvait Frédéric Mettezo de la rédaction de France Culture. Annie de Banton, journaliste et essayiste. Annie de Banton a été la spécialiste de l'Ukraine pour avoir vécu là-bas. Et puis elle a vécu également à Moscou comme correspondante permanente pour Radio France. Et nous parlions donc de la fin de l'homme rouge, fruit d'un patient travail de recueil de voix et de compilation commencé en 1991. Avec un magnétophone et un stylo, Svetlana Alexievitch était allée à la rencontre d'hommes et de femmes de la rue dans plusieurs pays de feu l'URSS. D'où cette première question que je lui avais posée. Quelle était son intention en débutant ce travail ?
Больше 30 лет я пишу историю вот этой страны, красной цивилизации, которая
существовала plusieurs années такое déjà, время. J'ai décrit l'histoire de cette civilisation rouge qui a existé.
И это 5 книг, и это завершающая книга.
Il s'agit donc de 5 livres, ceci est le dernier de la série.
Пала эта Красная империя. И на этом огромном пространстве произошли тоже Donc, очень большие изменения.
L'Empire rouge est tombé, il y a beaucoup de changements qui ont eu lieu sur
l'espace de cet empire. Представляли себе,
Dans les années 90, наивно, on pensait qu'on allait arriver à une nouvelle vie.
Что эта жизнь будет похожа на те мечты, которые
que
у нас
ça
были,
ressemblerait о которых мы мечтали des rêves,
на русских кухнях. Оказалась совсем другая жизнь.
Qu'on avait lorsqu'on se réunissait dans les cuisines russes pour en discuter, mais la réalité a été tout autre. Donc en fait, c'est un peu la conclusion de toute cette encyclopédie que j'ai écrite sur l'histoire de cette civilisation rouge. Je pense que cet essai, cette expérience rouge ne doit pas disparaître.
Если 20 лет назад нам казалось, что с коммунизмом
si
покончено навсегда,
то сегодня молодые люди опять читают Маркса. Mais maintenant je vois que des jeunes gens à nouveau se penchent sur les livres de Marx. Et donc il y a comme un second souffle qui existe aujourd'hui concernant les idées communistes. D'où ça peut venir? Je pense que depuis 20 ans,
что хотели, что обещали себе, что обещали своим детям.
Pas réussi à faire ce qu'on a promis à nos enfants, ce qu'on
вот мы только что
devait faire.
Проблему Donc, Сирии. Это еще раз
cela n'a pas été fait. Donc, tout à l'heure, on a discuté de la Syrie. Donc, ça confirme encore une fois qu'au lieu d'approcher la paix, d'aller vers la paix, nous nous éloignons de la paix. Donc en fait, il ne s'agit pas tout simplement de témoignages documentaires. C'est une nouvelle forme, en fait, c'est le roman des voix, de diverses voix. Le roman vocal. Donc j'ai, pendant presque 30 ans, j'ai réuni ces informations pour savoir comment ces gens-là ont vécu, comment ils s'entretuaient. Maintenant, c'est un livre, effectivement, est très difficile parfois à comprendre parce que cet ancien espace soviétique, il s'est fragmenté, s'est effondré, il est devenu très différent. Donc, c'est pour cela que de compiler toutes ces informations en un livre, c'était un travail très difficile. Mais j'ai voulu rendre ce chaos, cette espèce de chaudière russe, nouvelle chaudière russe, avec ce qu'il y a dedans et la chaudière qui peut imploser, exploser à nouveau, à tout moment.
Svetlana Alexievitch, vous avez évoqué en début de propos les cuisines russes et vous parlez beaucoup de ces cuisines dans votre livre qui était un peu au cœur de cet habitat collectif aujourd'hui disparu, un habitat collectif qui a aussi façonné l'Homo Sovieticus.
Les cuisines, c'est un endroit très sympathique, en effet. C'était un endroit où on se plaisait beaucoup à y être. On parlait d'une Russie, d'un pays qui n'existait pas, en fait.
Не было такой Белоруссии, не было такой России, о которой мы говорили на кухне. Была совсем другая страна.
Donc les choses dont on parlait, c'était un pays complètement différent. On parlait pas de la Russie ou de la Biélorussie qui existe maintenant.
И когда мы вышли из кухни, это обнаружилось.
Et lorsqu'on avait quitté enfin ces cuisines, on a réalisé que effectivement on avait tort, on a parlé d'autre chose. Le pouvoir a été accaparé par des voyous, par des voleurs, par des personnes complètement différentes qui n'avaient rien à voir avec les intellos qui discutaient dans les cuisines. Et ce qui s'est passé, c'est que non seulement le pouvoir est devenu complètement étranger à tous ces gens-là, mais aussi le peuple lui-même est devenu complètement indifférent à ce pouvoir en place. Peut-être, justement, ce n'est que maintenant, actuellement, un moment est arrivé, le temps est arrivé, où les gens commencent à nouveau à comprendre pourquoi finalement il ne s'est rien passé. Parce que, effectivement, il n'y a plus cet état d'esprit comme dans les années 90, lorsqu'on attendait que d'un moment à l'autre, on allait nous amener au paradis. Il y avait des bus qui arrivaient pour nous amener au paradis. Donc ceci n'a pas eu lieu.
Annie de Banton.
Oui, d'abord, je voudrais dire à nouveau la richesse et le caractère exceptionnel de ce travail. On n'a jamais vu un sociologue multiplier les voix, les approches, les cultures, les cultures ethniques différentes à ce point-là. L'ouvrage est épais. On ne s'y perd jamais parce que on suit chacun des personnages que vous avez rencontrés. Et donc il y a deux choses qui m'ont frappé plus que tous parce que chaque page est en soi une histoire avec un petit H comme vous dites, et le prix à payer pour la grande histoire, c'est la guerre. Mais deux choses sont frappantes, c'est la liberté de parler. Et le besoin de parler, ce besoin finalement de, à la fois de confession, mais au sens pas de punition ou de se faire pardonner, mais ce débordement de choses non dites qui ont été prescrites par le régime et qui doivent se dire au moment où finalement on va quitter la vie ou bien on va quitter ce que vous appelez la civilisation. Et ça, peut-être, nous allons en reparler. Et la deuxième chose que je me permettrai de souligner, c'est le caractère grave et quand même extrêmement triste de ce bilan. C'est vrai qu'il parle de civilisation, on pense un peu naïvement peut-être, aux trésors. Les trésors de la civilisation, les trésors que cette civilisation nous a laissés. Et finalement, on a le sentiment que là, ce ne sont que les larmes qui sont restées. Mais peut-être j'exagère un peu.
Alors, Svetlana Alexievitch, sur la liberté, le besoin de parler, c'est vrai qu'on a envie de vous demander comment vous les avez amenés à se confier à ce point et qu'on se dit que ça n'a pas dû être difficile tant il y a un débordement de paroles. Et puis sur la gravité, sur la tristesse, la forme, est-ce que c'est un requiem ?
Les voix de ces gens-là, de tous ces gens-là qui racontent leur vie, ces voix me sont connues depuis mon enfance. Je suis hanté par ces voix. J'ai été élevé dans un village bélorusse. Les femmes qui m'entouraient, ils parlaient sans cesse de tous ces sujets, de tous ces problèmes. C'est une... Effectivement, civilisation de pleurs et de souffrances, mais en fait, c'est aussi un piège dans lequel on ne peut pas rester longtemps, il faut s'en sortir vers quelque chose de positif, vers une... vision véridique de ce qu'on est réellement. Donc nos élites enfin devraient cesser de se taire pour avouer qu'ils ont cédé, qu'ils n'ont pas pu arriver au pouvoir, que le pouvoir a été confisqué. Et lorsque je terminais ce livre, ce travail très long, et surtout dans ce dernier livre, je voulais que la société en parle et qu'un vrai dialogue commence, une vraie conversation commence dans le pays, dans la société. Parce qu'on ne peut pas rester éternellement dans cet état de pleurs, de ces souffrances continues, de se complaire dans cette souffrance. Même maintenant, effectivement, il y a l'idée de à nouveau criminaliser les gens qui disent quelque chose qui va à l'encontre de ce que le pouvoir raconte sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, à nouveau, tout ceci témoigne de l'incapacité de créer une civilisation de liberté. Et je pense que lorsque j'ai parlé de tout ce chaos, de ces cris, de ces voix, de tout cet espace slave, par exemple, si vous voulez, ceci a été... écrit par moi uniquement pour qu'on se réveille enfin et on cesse de pleurnicher, pleurer. Parce que, en fait, pendant toutes ces années, soit on faisait la guerre, on se préparait à la guerre, on était resté 20 ans sous les débris de l'Empire rouge depuis 90, donc nous sommes toujours remplis de haine, de préjugés, toutes ces lois inhumaines qui sont votées maintenant, effectivement, prouvent que nous ne sommes toujours pas doués pour la liberté, nous ne la connaissons pas toujours.
Mais Svetlana Alexievitch, est-ce que vous diriez que ce ressentiment, cette souffrance, ces larmes dont vous parlez, même parfois vous dites pleurnicher, s'adapterait à toute la population? Est-ce que cette homo d'aujourd'hui ne ferait qu'un? Tout à l'heure, Frédéric Mettezo évoquait cette génération que vous appelez des cuisines, née dans les années 60. Mais il est question d'une autre génération dans votre livre, née après les enfants de cette génération-là. Est-ce que ces larmes sont valables pour toute la population que vous avez rencontrée ou seulement pour les plus anciens?
Касается всего всех поколений.
Нет, я бы не сказала. Это, наверное, можно говорить о советских людях.
Je pense que là il s'agit principalement des soviétiques,
des
gens qui ont vécu durant l'Union soviétique. Lorsque vous voyagez dans ce pays, vous voyez bien que Donc cette génération soviétique, il a l'impression, tous ces gens-là qui appartiennent à cette génération, ils ont l'impression que le pays a été partagé, a été pillé sans eux, en dehors de leur participation, et que ceci a été donc transféré dans les banques, offshore, etc. Et aujourd'hui, la notion de l'homme pauvre ne veut rien dire. Et c'est pour ça que les gens regrettent la perestroïka. Mais moi, je pense qu'il fallait, faire la perestroïka. Mais il faut savoir pourquoi après on a gaspillé les 20 années qui ont suivi, que nous les avons gaspillées, nous les avons ratées, comment nous avons laissé le pouvoir aux bandits.
Et donc, moi,
je voudrais que ce livre
réveille
la conscience des gens. Surtout, les jeunes gens sont très différents aussi. Il y en a certains qui replongent dans les livres de Marx, puis les autres, en 2011, par exemple, ils sont sortis, sont descendus dans la rue pour dire qu'on veut une autre vie. Donc, il y a une nouvelle génération qui a grandi,
qui
rêve d'une autre révolution. Mais il ne rêve pas d'une révolution communiste pour confisquer d'abord et après partager. Non, c'est une révolution pour que la Russie ressemble au reste du monde.
France Culture, la grande table, Caroline Brouet.
Vous écoutez une rediffusion du 5 septembre 2013. Nous étions en compagnie de la nouvelle lauréate du prix Nobel de littérature, Svetlana Alexievitch, autour de son livre « La fin de l'homme rouge ». Elle était interrogée autour de la table par la journaliste et essayiste spécialiste de l'Ukraine, Annie Daubenton, et l'historien Pascal Horry.
Quand on lit un grand livre, une grande œuvre, et j'ai lu un grand livre grâce à vous, on est très vite convaincu que ce qui est important, c'est moins ce qu'on dit que la manière dont on le dit. Et puisqu'on est à la radio, d'une certaine façon, c'est un livre radiophonique extraordinaire, puisque ce sont des voix, des centaines de voix, montées, mixées par vous. Et alors, je me suis toujours interrogé en tant qu'historien, historien de la culture, puisque vous rendez hommage à Verinzef, etc., dans votre livre, sur le genre que vous assumez et la manière dont vous vous considérez sans doute comme écrivain et héritière sans doute de la très grande littérature russe, en particulier de Dostoïevski, mais pas seulement. Parce que, voilà la citation, vous intervenez peu directement, mais là vous intervenez, vous dites à un certain moment que vous n'aviez pas allumé votre magnétophone afin de saisir le moment, je vous cite, que je guette toujours dans toutes les conversations, celui où la vie toute simple, se transforme en littérature. Vous pouvez nous expliquer.
On me demande pourquoi moi j'existe pas moi-même dans les livres. Moi, je donne la voix à ceux qui ont toujours été sans voix. Je donne la parole à ces gens-là. Donc, et moi, je suis présent dans ce qu'ils disent. Parce que pour pouvoir écouter ou entendre quelque chose de nouveau, il faut poser la question d'une nouvelle façon, en quelque sorte. Donc, je ne collectionne pas des monstruosités ou des histoires atroces. Moi, je collectionne les sentiments des gens, les émotions des gens. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, en l'occurrence, c'est le socialisme domestique à l'intérieur des appartements, des cuisines. Le socialisme officiel sur les grandes places, dans les rues, ça ne m'intéresse pas, dans les manifestations, etc. Donc, ça m'intéresse comment le socialisme a pénétré dans l'âme des gens, dans l'âme des hommes.
Et
moi, personnellement, je me suis intéressé beaucoup au fait que dans la vie, le mal chimiquement pur n'existe pas. Le mal, il est un petit peu dissipé, diffusé dans la vie. Par exemple, voilà, on cite souvent l'archipel de Goulag.
Ah, archipel Goulag?
оказывается, тоже может быть домашним.
L'archipel, le goulag peut être aussi à l'intérieur des gens, à l'intérieur de la famille, à l'intérieur de l'appartement. Par exemple, j'ai discuté une fois avec une femme, et elle me dit qu'elle a dénoncé son frère qui, à cause de ça, est envoyé dans les camps et est mort dans les camps.
Donc,
quand on parle de l'archipel de Goulag, il s'agit effectivement du système stalinien, mais en même temps, c'est Staline, mais en même temps, c'est cette jolie femme qui a dénoncé son propre frère, qui a fini au camp à cause de ça. Donc, et je m'intéresse comment l'homme peut en fait descendre comme ça, aussi bas. Et donc dans ce livre, je ne parle pas seulement de...
Il n'y a pas une idée particulière.
Moi, je pense des gens, comment ils ont dansé, comment ils ont aimé, comment ils ont mangé, comment ils ont bu. Je pense que si j'arrive à réunir tous ces détails... Je peux voir comment les choses peuvent pénétrer dans le cœur des gens et comment, une fois que j'ai expliqué ça, les autres peuvent commencer à y penser, à y réfléchir aussi.
Mais en ayant choisi l'intime, l'individuel et d'une certaine façon le spirituel, au fond, vous preniez au sérieux trois valeurs qui étaient niées par l'Union soviétique. C'est exactement l'inverse de l'Union soviétique.
Светлана Алексеевич.
Да, но вы знаете, что ведь все равно в Советском Союзе это могло отрицаться.
En Union soviétique, effectivement, ceci était refoulé,
человек же со времен Библии не поменялся.
Depuis la Bible, par exemple, l'homme n'a pas beaucoup changé. Et même en Union soviétique, tout ceci était tout simplement refoulé. Était renvoyé dans la clandestinité. Donc moi, je voulais quand même en parler pour voir comment l'homme se préservait, comment il luttait avec lui-même, comment il cherchait à rester. Et qui est responsable de ce genre de transformation? Je pense que l'idée est responsable. C'est par exemple quand je vais dans les musées, je suis toujours frappé par les têtes, par les visages des bourreaux du goulag. Souvent, c'était des gens très inspirés, très beaux. Et ils ressemblaient un petit peu à des saints, les gens qui sont sanctifiés en Russie. Et souvent, j'ai entendu dire que ces gens-là, après, ils souffraient en silence chez eux à la maison, mais ils disaient ça que pour que l'idée triomphe, il fallait qu'ils fassent ça, il fallait qu'ils soient bourreaux. Et moi, j'ai voulu montrer que... Moi, en fait, j'essaie de combler les pages d'histoire qui manquent. Je comble, en fait, ce que les historiens ne font pas, par exemple, ce que l'histoire n'explique pas. Par exemple, nous ne savons rien comment, par exemple, dans la Grèce antique, une mère... accompagner son fils qui partait à la guerre ou comment, et si ça se trouve, les gens se dénonçaient aussi pendant la guerre. Et donc moi, je voulais transmettre toute cette complexité de la vie qui disparaît sans laisser des traces lorsque l'homme part.
Lorsque l'homme s'en va.
Et seulement à ce moment-là, une autre personne, un autre homme aussi petit que celui qui est parti, peut se mettre à table, lire un livre, et donc en réfléchir comme d'une expérience de vie. Comme un drame humain, lorsque l'homme n'a pas pu résister.
Et vous écrivez que vous regardez le monde avec les yeux d'une littéraire et non d'une historienne. Frédéric Mettezo.
Oui, vous évoquiez tout à l'heure le retour des idées communistes, ou plutôt l'intérêt pour le marxisme dans les jeunes générations d'aujourd'hui. Il y a une formule absolument délicieuse dans votre livre. Un communiste, c'est quelqu'un qui a lu Marx. Un anti-communiste, c'est quelqu'un qui l'a compris. Dans l'URSS... auprès des personnes que vous avez rencontrées, quelle était leur connaissance réelle de la doctrine de Marx, de l'idéologie communiste ?
Вы знаете, у меня книга называется в русском варианте, она называется «Время секонд-хенда».
Вот эта книга, а не другая книжка.
Эта книга называется «Время секонд-хенда».
Donc en русском варианте. Version russe, ce livre s'appelle «Le temps second-hand». Donc ça veut dire que peut-être le
De l'occasion.
Les occasions.
D'occasion.
Les achats d'occasion.
Это о том, что об этой нашей неспособности к новой жизни, что мы опять схватились за те старые идеи, которые были при коммунизме.
C'est une époque d'occasion. Parce qu'en fait, on s'accroche toujours, à nouveau, on s'est accroché à des anciennes histoires, des anciennes idées qui ont eu cours durant l'Union soviétique.
И вся книга – это ответ на том, почему эти идеи снова работают?
Effectivement, j'ai écrit le livre pour essayer de répondre pourquoi à la question pourquoi ces idées fonctionnent toujours.
Оказывается, свободного человека нет пространства, на котором можно его построить.
On n'a pas d'espace, on n'a pas de base pour construire un homme véritablement libre.
Нет свободного человека.
L'homme libre n'existe pas.
Потому что
Il n'existe pas.
Мы представляем себе марксизм
Parce
очень упрощенно.
Nous représentons le marxisme d'une façon très simplifiée.
Я прослушала десятки людей.
J'ai écouté des dizaines de personnes
даже
différentes.
Даже тех людей, что сидели в ГУЛАГе.
Même ceux qui ont été envoyés dans le ГУЛАГ.
И вы знаете, у них блестели глаза, когда они об этом говорили.
Ils avaient des yeux qui brillaient lorsqu'ils en parlaient.
Et если я пыталась их убедить,
Et si moi je cherchais à les convaincre, à les...
Они говорили, как там один из моих героев,
par exemple,
что нас надо судить не по законам логики,
héros,
а по законам веры.
Ils disaient qu'il faut nous juger d'après la, selon la logique de la foi, pas selon la logique de l'idéologie.
Вы понимаете, весь опыт нашей жизни...
Parce que
не дает вот этого свободного человека.
Toute expérience, toute notre expérience existentielle ne crée pas un homme libre.
Вот, например, мое самое сильное впечатление в 90-х годах.
Par exemple, dans les années 90,
все говорят о свободе, а свободных людей нет.
Tout le monde parlait de la liberté, c'était le mot le très répandu, mais en fait, des hommes libres n'existaient pas. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas un seul homme qui soit libre.
Нравится, к стенке посадить, расстрелять.
S'il y avait, si tout, dès que, par exemple, quelqu'un était contrarié, tout de suite, il voulait envoyer cette personne en prison, fusiller ou encore pire. Voilà. La liberté, c'était en même temps avec un arrière-goût très répressif.
И никто не говорил о том, что свобода это труд, а не праздник, что это не воля, а это действительно труд.
Personne ne disait que la liberté c'est un travail quotidien, que
c'est совершенно...
pas c'est pas une fête, c'est que c'est pas une anarchie, c'est pas
Все смотрят на Ельцина и ждут, что Ельцин решит все проблемы.
Attendez qu'Eltsin résolve tous les problèmes tout seul.
И ничего не поменялось, в общем-то.
Et c'est pour ça que rien n'a changé.
Annie de Bonton.
Alors justement, vous décrivez une société malade, où finalement le nœud de cette un des diagnostics serait que le bourreau et la victime se tiennent la main. Comment sortir de cette danse, si je puis dire, où le bourreau et la victime se tienne éternellement la main?
Svetlana Alexievitch.
Вы знаете, это такой вот вопрос очень хороший, потому что сколько я ездила, я все время задавала
Chaque
себе
fois,
этот
quand
вопрос.
Je partais en voyage pour récolter
вот
les informations, je me posais cette question. Donc,
и вы знаете, просто без слез,
quand j'entendais des gens parler de leur vie,
дома,
c'était très difficile de l'écouter
Но
sans larmes aux yeux.
Mais
dès que tu commences à parler de la vie d'aujourd'hui, de Poutine, par exemple, tu vois, c'est à nouveau l'esclave qui se réveille.
Et вот я каждый раз уносила новую правду у себя вот в диктофоне, и думала.
Donc à chaque fois, je.
Вот в чем вся проблема.
J'enregistrais ces interviews sur mon magnétophone. Et à chaque fois, je me rendais compte que c'est, il est bien là-dedans l'origine de notre esclavage. Pourquoi il y a Poutine, pourquoi il y a Loukachenko en Biélorusse. Quelle est la sortie de cette situation? Au bout de 30 ans, en Allemagne, l'élite a commencé à parler au peuple. Donc je pense que nous aussi, on devrait enfin commencer à parler honnêtement avec le peuple sans s'inventer le passé glorieux ou l'avenir radieux, juste parler le langage de vérité. Donc dire tout simplement que nous sommes tous sortis du goulag.
La fin de l'homme rouge, un livre de Svetlana Alexievitch, est édité chez Actes Sud dans une traduction de Sophie Bénèche. C'est aussi désormais une pièce qu'on peut voir mise en scène par Stéphanie Loïc, qui en est à sa quatrième adaptation de cet auteur, désormais prix Nobel de littérature. On pourra voir cette nouvelle pièce jusqu'au 17 octobre à 19h30 à Anigra, le lieu de l'autre à Arcueil, puis du 4 novembre au 7 décembre au théâtre de l'Atalante, place Charles Dullin à Paris dans le 18e arrondissement. Lors d'une conférence de presse improvisée hier dans les locaux du journal Nacha Niva à Minsk où elle réside, Svetlana Alexievitch a évoqué son amour pour la Russie tant qu'elle n'est pas sous la coupe des totalitarismes et des autoritarismes. Petit verbatim, c'est difficile d'être une personne honnête actuellement, très difficile, mais il ne faut pas faire de concessions devant un pouvoir totalitaire. J'aime le monde russe, bon et humaniste, devant lequel tout le monde s'incline, celui du ballet et de la musique, mais je n'aime pas celui de Beria, Staline, Poutine et Shoigu, le ministre russe de la Défense. Cette Russie qui en arrive à 86% à se réjouir quand des gens meurent dans le Donbass, la région rebelle pro-russe de l'Est de l'Ukraine, à rire des Ukrainiens et à croire qu'on peut tout régler par la force. Et elle a terminé en disant, à propos de sa récompense, que c'était une récompense non seulement pour elle, mais aussi pour sa culture, pour son petit pays qui a toujours vécu comme entre des pressoirs. Voilà Svetlana Alexievitch que vous avez pu réentendre au micro de la Grande Table dans cette émission du 5 septembre 2005. Vous retrouverez bien sûr un dossier spécial sur le site de France Culture, franceculture.fr. Et puis sachez que À Voix Nue sera rediffusé avec Svetlana Alexievitch, des À Voix Nue qui datent de 2005, fait par Jean-Pierre Thibaudat. Rediffusion toute la semaine prochaine du lundi 12 au vendredi 16 octobre dès 20h. C'est ainsi que s'achève la Grande Table. Merci à toute l'équipe. Raphaël Bourgois, Jeanne Aléos, Clémence Marie, Henri Leblanc et Camille Ferret. À la réalisation, c'était Marie-Laure Ciboulet. Et à la technique, ah ben ils ont changé de place maintenant. Bruno Gagnère-Fontani, mais avant c'était Élise Leu.